Bonsoir les amis des livres et des apéros. Pour sonder un pays, il faut des chiffres. Il faut des portraits types, des cases, des échantillons. Les sondeurs ont plus de poids que les intellectuels. Ils mettent le pays en pourcentage, ils prennent son pouls avec une calculette. Mais pas du tout, s'indigne la littérature. Mais ça va pas, non. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mateuse, cette Dupont-Mono. Regardez du côté des livres, c'est exactement l'inverse. Pour sonder un pays, il faut des mots, pas des chiffres. Les vrais sondeurs, ce sont les écrivains. Comment comprendre l'Afghanistan sans avoir lu Les Cavaliers de Joseph Kessel? Aucun roman n'a mieux dépeint ce pays, ses montagnes, ses steppes et ses jeux. Et l'Algérie, peut-on la saisir sans avoir lu Albert Camus? Aucune étude de l'INSEE ne peut rivaliser avec Nos. Et le microcosme parisien, peut-on le radiographier mieux que Balzac? Le quartier latin des illusions perdues vaut largement une étude de la Saufresse. La réalité est une affaire de mots, pas de numéros. Et s'il faut encore une preuve, elle est là. Elle s'appelle « Dans quelle France on vit ?» de Anne Niva, parue chez Fayard. Anne Niva est reporter de guerre. Elle a été en Irak, en Tchétchénie, en Afghanistan. Mais la France ? La France est en guerre, justement, annonça François Hollande le 16 novembre 2015. Alors, la reporter est allée arpenter son pays. Elle a choisi six villes. Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier, Ajaccio. Avec six thèmes, de l'emploi à la sécurité en passant par la jeunesse. Anne Niva a dormi chez l'habitant, a beaucoup tendu l'oreille, s'est incrustée dans les réunions, les brigades, les dîners familiaux. Éponge, mais néanmoins dotée d'une sensibilité, elle a transcrit ces choses vues, propres à Victor Hugo, mais aussi entendues et ressenties. En découle l'instantané d'un pays, le nôtre, et sur ce photomaton, la France grimace. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Anne Niva, avec un bon cidre de la Mayenne. Elle nous livrera ses secrets d'écriture, gardés comme un calvados en Normandie, ce sera le procès-verbal. Nous révélera ses vices culturels, comme on hume un vin corse, ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire, gardien de toutes les géographies, ne vienne éclairer nos villes intérieures.
France Inter. L'amuse-bouche. Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Anne Niva.
Bonsoir.
En 1990, vous étiez à peine née,
François, c'est ça, oui.
François Maspero publiait Les Passagers du Roissy Express, dans lequel il racontait la France vue depuis le RER. Et il disait ceci.
On ne peut pas aller en Chine et puis ensuite se replier chez soi et ne pas aller voir ce qui se passe à... Ce qu'on va voir en Chine et ce qu'on ne va pas voir à 100 mètres de chez soi. Moi, j'avais été frappé une fois, j'avais comme ça, il y a très très longtemps, je voyais des gens qui débarquaient, des intellectuels de gauche qui débarquaient dans un pays du tiers-monde, socialiste, et qui se faisaient montrer des réalisations fantastiques, mais ils visitaient des usines de textile, par exemple, et jamais ils avaient visité une usine de textile de leur vie en France. Il n'était pas question qu'ils le fassent jamais, mais ils trouvaient ça admirable. Donc, il fallait... Bon, c'est aussi toutes ces histoires de voyage qu'on voit ces dernières années, c'est passionnant, mais bon, le voyage, il commence effectivement rue Montorgueil, quoi. Ou sur la ligne du RER.
Est-ce que votre livre est parti du même constat, Anne Niva, c'est-à-dire le voyage commence sur la ligne du RER ou du train Corail?
Mais évidemment, et d'ailleurs je cite François Maspero, le grand reportage ou le reportage, je ne sais pas pourquoi en français on dit grand reportage, commence en bas de chez soi. En bas de chez soi, c'est juste sortir de chez soi et aller regarder tout le reste. Moi, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, la Tchétchénie ou la France, c'est la même chose. Je dirais, c'est la même chose dans ma façon de travailler, dans ma curiosité. C'est la même curiosité. Et j'ai adoré votre introduction, chapeau, parce qu'effectivement, je ne cesse de dire aux uns et aux autres que je ne suis pas sondeuse chez IFOP. Que justement, quand on me pose des questions, c'est pas pour avoir des chiffres. Je ne m'adosse pas sur des chiffres. J'ai essayé d'aller voir, en toute subjectivité, c'est-à-dire je ne prétends aucunement justement à ce caractère objectif et très cru des chiffres. Moi j'aime l'humain, et l'humain c'est complexe, c'est paradoxal. Mais ce qui est bien, c'est que l'humain ça raconte des histoires.
Vous rencontrez des tas de gens, des associatifs, des patrons, des postiers, des profs, des chômeurs, ouais. etc. Votre regard, vous l'avez dit, n'est jamais complètement neutre, c'est
non,
assumé.
Bien sûr.
À partir de là, où est-ce que vous mettez le curseur de l'empathie? C'est compliqué quand même.
Mais il n'y a pas de curseur de l'empathie pour moi. C'est la même question qu'on me posait quand j'étais en Irak, en Afghanistan, et qu'on me disait, mais comment on fait quand on est face à un djihadiste? Est-ce qu'on le déteste tellement que finalement on peut pas lui parler, etc. Ça me fait penser au vote FN en France. Il y a beaucoup de gens à qui je n'avais pas envie forcément de parler politique, qui m'ont parlé politique, qui me disent qu'ils vont voter FN. Est-ce que pour autant je quitte l'entretien et je vais voir ailleurs? Non. Moi, je crois qu'il faut écouter tout le monde parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête de mon interlocuteur. Parce que moi, si j'ai pas mon interlocuteur qui me raconte des choses, je suis pas romancière, Clara Dupont-Mono. Je suis pas comme vous. Moi, je peux pas inventer. J'y arrive pas. Je suis coincée.
Je suis un petit peu journaliste aussi, quand même.
Oui, mais dans vos livres, dans vos romans. Je parlais de vos romans parce que vous avez plusieurs talents. Mais donc, je suis une obsédée du réel. Donc, je me nourris du réel. Et le réel, je crois qu'il faut le regarder en face. C'est aussi ça que j'ai eu envie de montrer dans ce livre. C'est-à-dire que, ce sont les malaises en France, les malaises français, un certain déni, des angoisses existentielles que j'ai eu envie de raconter à travers six villes de France. Et puis, une fois que j'ai été en face à face avec ces gens de toute catégorie sociale, de tout milieu, qui à chacun à leur façon me racontaient leur angoisse, que ce soit pour l'emploi, parce qu'il n'y a pas que ceux qui cherchent un emploi qui sont angoissés. Il y a ceux qui en ont un aussi, qui ont peur, qui sont angoissés de le perdre, étant donné le contexte de la crise actuelle. Il y a le malaise des jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place. Ça a l'air vraiment simple ce que je dis, mais ce sont des choses qu'on ne raconte pas souvent. Et là, je voudrais simplement citer Flaubert, l'exergue de mon livre. Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. C'est ce que Gustave Flaubert écrivait à Alfred Le Poitevin en 1845. Voilà, c'est l'anti-scoop. Bien sûr que les journalistes se doivent d'aller sur le terrain quand il y a un événement, etc. Mais ils peuvent aussi y aller quand il se passe rien ou quand on a l'impression qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, c'est pas vrai, il se passe jamais rien. Et c'est justement cela que j'ai envie de montrer. Cette France-là qui vit, qui malgré le fait qu'elle se plaint, bien sûr, et qu'elle a plus confiance ni en ses politiques ni en ses médias, elle a des choses à dire.
À Montluçon, Christine vous dit, justement, Pôle emploi, ils m'ont convoqué une fois et ils m'ont dit que c'était pas la peine. Jean-Michel renchérit, il dit, tout le monde s'en fout. Ce thème, le cinéma s'en était déjà emparé avec notamment la loi du marché de Stéphane Brisé.
Il faut dire aux gens, prévenez les gens. Dites-leur, n'envoyez pas les gens faire un stage si vous savez pertinemment bien qu'il n'y a rien à l'arrivée. Je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, on les traite bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, moi, je suis là dans votre bureau, ouais. J'ai l'impression de venir indéfiniment et...
Après, le souci, monsieur, c'est que les employeurs, c'est eux qui décident de recruter. C'est pas nous. Donc nous, effectivement, on essaie de cibler des formations ou des emplois. Là, honnêtement, sur...
Enfin, je ne suis pas le premier, vous le savez très bien, quand on m'envoie sur un stage de grutier... Ouais. Je suis pas le premier, je vous dis, on était 15, il y en a 13 qui sont revenus, qui n'ont jamais mis les pieds sur un chantier, et pour qui ça a servi à rien. Je suis pas le premier.
C'était un film, La loi du marché, sorti en 2015, avec Vincent Lindon qu'on vient d'entendre. Il s'agit bien de ça, Aniva, un sentiment d'abandon.
Non mais c'est extraordinaire ce qui est dans ce film. C'est que c'est exactement la réalité de ce que m'ont relaté des gens qui travaillent à Pôle emploi, parce que j'ai parlé à des demandeurs d'emploi, mais j'ai parlé aussi à des gens qui travaillent chez Pôle emploi. La simple conseillère que vous voyez, mais également une psychologue chez Pôle emploi. Et tous à Pôle emploi m'ont dit la même chose. Ça leur fait du mal d'être les seuls à dire la vérité à ceux qu'ils ont en face d'eux. Notamment cette psychologue Pôle emploi, Sidonie, qui me dit « Nous sommes le dernier rempart contre la révolte, nous, à Pôle emploi. » Et c'est vrai que les gens qu'ils ont devant eux souhaiteraient que par un coup de baguette magique, ils leur trouvent un emploi. Et c'est vrai que ceux qui sont employés chez Pôle emploi n'ont pas cette baguette magique. Et qu'ils aimeraient que les dirigeants de Pôle emploi et plus largement les politiques que nous allons élire parlent plus franchement de cette question de l'emploi qui fait peur à tout le monde. Or, personne n'ose dire la vérité. Et la vérité, c'est comme le dit Christine, cette femme qui a 50 ans, le mauvais âge, et qui était ancienne secrétaire, son travail n'existe plus, donc elle n'arrive pas à trouver un travail, un CDI, sûrement pas, alors elle trouve des CDD, voire des CDD d'une demi-heure, de l'intérim, une demi-heure par une demi-heure.
Vous vous intéressez aussi à une région où le taux de chômage, à l'inverse, est très bas. Oui. C'est le cas de la Mayenne. 6,8% de chômage en 2016, la moyenne nationale étant de 10,2. Quelles sont vos explications pour expliquer un taux de chômage aussi bas?
Alors c'est vrai que donc, en fait, je n'ai pas 6 thèmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai 6 villes, mais 5 thèmes. Parce que l'emploi, pour moi, est tellement important que je l'ai traité dans 2 villes.
Des deux côtés.
À Montluçon, du côté dont on vient de parler, et à Laval, de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de l'employeur, même du patron, je dirais. Eh bien, j'ai effectivement fait connaissance de la Mayenne, de cette ville de Mayenne, dans laquelle il semblerait qu'il y ait quand même une solidarité entre entrepreneurs qu'on ne trouve pas partout en France. Ce qui est compliqué, ce sont les statistiques. politique du chômage. Ça, tout le monde s'accorde à le dire, hein, tous les acteurs sur le marché de l'emploi, y compris ceux qui travaillent chez Pôle emploi. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de jeunes de Mayenne qui quittent la Mayenne pour aller chercher de l'emploi ailleurs et qui ne sont donc pas comptabilisés. Donc ça aiderait aussi à avoir un chiffre bas, parce que la Mayenne n'a pas la baguette magique pour trouver de l'emploi à tout le monde non plus. Il y a aussi énormément de personnes qui sont en Mayenne et qui malheureusement auront beaucoup de mal à trouver de l'emploi. Et ce sont les gens qu'on appelle très pudiquement, et cela m'agace beaucoup, les plus éloignés de l'emploi. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un dont on est pratiquement sûr à Pôle emploi qu'il ne retrouvera pas un emploi.
C'est à Laval aussi que vous auscultez le stress des petits et des moyens patrons. Oui, ça, oui. C'est un sujet assez tabou. On ne parle pas de cette souffrance-là, vous dit l'un d'eux.
Oui, alors j'ai deux personnes. J'ai Sonia, avec laquelle je commence le chapitre dans un déjeuner entre femmes. Mais il y a aussi cet autre entrepreneur, chef d'entreprise de la sixième génération, d'une entreprise familiale de textile, une grosse entreprise, qui me parle effectivement, je dirais presque que ça lui a échappé quand on en a parlé, de sa solitude à la tête de son entreprise, et en fait du fait qu'il en souffre et qu'il a besoin d'une psy, d'un coach. Et quand il me l'a dit, je lui ai demandé si je pouvais l'écrire. Il a hésité au départ, mais il ne m'a pas hésité très longtemps. Il a osé le dire, le publier, et je trouve que c'est tout à son honneur. Donc lui, comme Sonia et comme bien d'autres, explique qu'effectivement, on met toujours l'accent sur les difficultés qu'ont les employés, et Dieu sait s'ils en ont, mais les employeurs aussi. Les employeurs aussi se sentent seuls, se sentent angoissés et ont du mal à dormir le soir parce qu'ils ont toutes ces responsabilités-là sur les épaules.
Votre livre aurait pu s'appeler Un jour en France, finalement, Anne Niva.
Oui.
Oui, ben en fait, non, ça n'aurait pas été possible car d'autres y ont pensé avant. Noir Désir, par exemple, a chanté Un jour en France, c'était en 1996 et c'est l'hymne de votre livre.
Chacun devient de la foi au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. On se rappelle de la France, on est réminiscence de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord.
Anne Niva est avec nous jusqu'à 20h pour son livre « Dans quelle France on vit ?» Six petites villes françaises passées au crible de son regard
moyenne, journalistique. Moyenne, Clara, pas petite.
Petite ville moyenne. Ville moyenne, passée au crible de son regard journalistique. Et bien justement, Anne Niva, écoutez l'historien Pierre Rosanvallon qui parle de cette démarche.
Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont comme muettes dans la société. Elles n'ont pas droit à la parole. Elles sont dans leur coin. Elles sont à la fois isolées, avec un sentiment d'oubli, un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être pris en compte. donner la parole à tous ceux que l'on peut qualifier d'un mot commun d'invisibles. Pourquoi invisibles? Ils ne sont pas invisibles. Tout le monde existe bien dans la société, avec sa vie, son travail, son quotidien. Mais invisible pour les institutions, invisible pour les partis, invisible pour les médias.
Prendre en compte les laissés pour compte, c'était Pierre Rosanvallon. Anne Niva, du coup, est-ce que votre livre est de gauche?
Non, mais c'est pas parce que Rosanvallon est de gauche et que je suis d'accord avec lui que je suis de gauche ou de droite, ça n'est pas le problème. Vous savez, j'ai énormément de retours de ce livre depuis qu'il est paru. Et alors, il y a des gens qui me disent, ah bon, alors vous êtes de gauche. Il y en a d'autres qui me disent, vous êtes de droite. On est insulté qu'on soit de droite ou de gauche. De toute façon, personne n'est jamais content. Donc, c'est pas ça l'important. Mais je crois qu'on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que dit Rosanvallon là. Moi, je suis une puriste, comme je l'ai dit du terrain tout à l'heure, et j'ai une grande déontologie, c'est-à-dire de l'honnêteté. On peut me taxer de tout, mais pas d'être malhonnête. C'est-à-dire que je n'ai fait que retranscrire, et donc transmettre, et donc partager, des propos qui m'ont été tenus.
Donc c'est donner une voix aux sans-voix.
Absolument. Et ces sans-voix en question, qui ont lu le livre aujourd'hui, aucun d'entre eux ne s'est exprimé pour dire « Niva a transfiguré mes propos et les a mal répétés ». C'est pas vrai. Donc c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et même si ça fait du mal à entendre.
Il y a des habitants qui l'ont mal pris. Est-ce qu'il y a une ville à un moment qui a un peu râlé ou un peu tiqué parce qu'elle disait ça me représente pas?
Oui, il y a la ville de Lons-le-Saunier où je suis allée vendredi soir, où effectivement il y avait au départ la PQR qui n'avait pas compris que j'avais accolé un thème à une ville. Et effectivement, le thème pour Lons-le-Saunier, c'est le sentiment d'insécurité. Ce qui ne veut pas dire qu'à Lons-le-Saunier, il y a
que c'est un coupe-gorge.
Voilà, exactement. Et ça ne l'est pas du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le commissaire de police était perplexe quand je lui ai demandé l'autorisation d'aller faire une tournée de nuit avec sa BAC, parce qu'il m'a dit, mais allez dans les quartiers nord de Marseille. Bon, mais avec mon explication, la PQR a compris que moi, je n'ai aucune prétention à raconter une ville dans toute sa complexité et au jour le jour, comme le fait la PQR. En revanche, ce que j'ai voulu faire, bien ou mal, mais en tout cas ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est illustrer dans chacune des villes un thème qu'il me paraît être une préoccupation des Français.
Justement, vous parliez de Lons-le-Saunier, vous avez embarqué pour une nuit avec la brigade policière de nuit, et là, on découvre le désespoir des policiers.
Policiers en colère ! Policiers en colère ! Policiers en colère !
C'est un vrai cercueil. Avec le drapeau, c'est exactement en fait ce qui représente le collègue lorsqu'il décède en service, puisque bah on met un drapeau français et il y a toute une cérémonie, tout un cérémonial qui est fait. Donc c'est pour dénoncer le manque de moyens, le manque d'effectifs et la mise en danger de la police et donc de la population par en conséquence.
Les manifestations de policiers en 2016 après l'agression de Viry Châtillon. Anniva, de quoi se nourrit le désespoir des policiers?
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ça a commencé en plein quand j'étais à Lons-le-Saunier et que mon thème était celui-là. Donc je me suis dit, vraiment là, j'ai de la chance, j'ai bien choisi. Donc j'étais vraiment très contente d'essayer de comprendre ce malaise des policiers. Mais avant de comprendre ce malaise des policiers, enfin, il faut comprendre en même temps, même pas avant, en même temps, comment ils travaillent et en quoi consiste leur travail. Et là, j'ai quand même en mémoire quelque chose que m'a dit une policière, alors que la nuit était très longue à Lons-le-Saunier, que je passais la nuit avec la BAC, et que justement, parce que Lons-le-Saunier n'est pas un coupe-gorge, il ne s'y passe pas grand-chose, et quand les nuits sont longues et que les policiers ont dans leur voiture une journaliste, eh ben, ils lui parlent, et elle prend des notes, et que là, j'ai cette policière qui m'a regardé dans le rétroviseur et qui m'a dit qu'elle avait l'impression que les policiers, c'était les éboueurs de la société. Et ça, c'est fort quand même. Parce que c'est un petit peu comme si Denis Zaher, à Pôle emploi, à Montluçon, qui me dit quel est le dernier rempart. Ça veut dire que ces gens-là qui aiment leur métier, que ce soit les policiers ou que ce soit les gens de Pôle emploi, eh bien, sont les premiers, en première ligne, devant les gens qui vont le plus mal. Et personne n'a envie de le faire, ce travail-là. Il n'est pas facile à faire. Alors, j'ai aussi parlé beaucoup avec ce policier, Ludovic, qui a fait les Beaux-Arts avant de se retrouver dans la police, qui avoue qu'il a voté FN et que là, aujourd'hui, il ne sait plus pour qui voter.
Et qui dit, on ne fait que de la représentation.
Exactement. On ne fait que de la représentation et il est contre cette politique du chiffre et il me dit, je ne serais jamais rentré dans la police si j'avais su qu'on nous ferait faire du chiffre comme ça. Parce que lui, il est dans l'humain. Et moi, je me dis que si tous les flics étaient comme lui, et ben ça serait quand même plus sympa.
Alors certains, du coup, ont organisé eux-mêmes des maraudes, comme d'autres, dans votre livre, ont fondé une association. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont pris les choses en main. Est-ce qu'on peut dire, Anniva, que la société civile prend le relais de l'État, se substitue à lui?
Alors, se substitue sans doute pas, mais se juxtapose à lui. C'est-à-dire que effectivement, les Français qui, comme nous le savons tous, aiment beaucoup se plaindre, et se plaindre notamment de leur politique, de leurs institutions, etc., et dire que rien ne marche, eh bien, ont quand même envie, à part effectivement un tissu associatif absolument extraordinaire, sont fraternels. Il y a une solidarité qu'on ne soupçonne pas, parce que c'est vrai que dans les médias, on a tendance à ne pas mettre toujours le doigt sur les choses qui vont bien, mais plutôt sur l'inverse. Donc, c'est vrai que j'ai voulu faire cette maraude à Évreux et que je me suis rendu compte qu'elle existait partout, dans toutes les villes de France, et qu'elle créait des liens. Et j'ai, en même temps à Évreux, j'ai parlé avec des Ébroïciens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas que cette maraude existait. Donc, moi, la journaliste de passage, j'arrivais à mettre finalement les gens en lien les uns avec les autres. Et là, quand j'y parviens, je trouve ça formidable.
Ce sentiment d'abandon que ressentent les citoyens, Anne Niva, parfois, il faut bien le reconnaître, il est un petit peu justifié.
Votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une panne, le TER Centre, numéro 860 605, à destination de Châteaudun, départ initialement prévu à 8h11, est supprimé. Des informations vous seront communiquées dès que possible. Merci de votre compréhension.
Ah, voilà.
Mais Montluçon, qui est une de mes 6 villes, on peut plus y aller en train. Voilà. On achète un billet SNCF, mais on arrive à Vierzon. À Vierzon, là, c'est pas marqué sur le billet. Mais on descend et le reste est en bus.
Et vous écrivez, la SNCF participe à la mutation des campagnes françaises vers cette globalisation si décriée. Pourquoi vous écrivez ça?
Mais parce que les gens souffrent de cette globalisation. Parce qu'ils ont l'impression de ne plus exister. Ils ont l'impression d'être devenus des numéros. Ils ont l'impression d'être devenus des anonymes. Et c'est pour ça que, en arrivant dans leur ville et en m'intéressant à eux, eh bien, je me suis retrouvée face à des humains qui avaient beaucoup de choses à dire. Mais le premier réflexe, ça a été extraordinairement étonnant pour moi. Ça a été la perplexité. La perplexité de ces gens. Du fait que je m'intéresse à eux.
Est-ce qu'il y a de la rancœur vis-à-vis de la centralisation parisienne? Est-ce que c'est un point commun que vous avez rencontré dans ces villes moyennes, ces 6 villes moyennes, d'avoir un sentiment que tout se décide à Paris, que tout est centralisé à Paris?
Oui, bien sûr, centralisé, bien sûr, mais c'est surtout que Paris est le centre de tout, y compris dans les médias, c'est-à-dire le centre des discussions, que les médias les plus importants, évidemment, sont à Paris, que le microcosme médiatique est à Paris, que tout le monde est parisien, et que donc, ceux qui sont montés à Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui font la pluie et le beau temps à Paris aujourd'hui, qui viennent de la province, ont un peu oublié qu'ils en venaient. Et du coup, le journaliste parisien n'est pas très bien accueilli hein, quand il arrive dans ces provinces. Sauf que, enfin, moi je ne suis pas étiquetée journaliste parisienne parce que je passe mon temps à partir de Paris. D'abord, au départ, je suis au Savoyard, je ne suis pas parisienne. Mais j'habite à Paris, bien sûr, et bien sûr que je fais partie du microcosme, je l'assume complètement. Mais moi, mon métier, c'est d'en sortir tout le temps. Mais je pense que quand on explique quel est son projet et que l'on a du respect pour son interlocuteur, eh bien, tout change. Tout change. Et là, l'interlocuteur parle. Il parle, il a des choses à dire. Et ce livre n'a aucune autre ambition que de donner la parole à ces Français-là.
Certaines villes que vous citez, que vous prenez dans ce livre, Anne Niva, sont dans des départements qui sont parfois traversés par aucun tracé ferroviaire rapide.
Je viens de le dire pour l'Allier.
Pour l'Allier, c'est aussi le cas de l'Aisne. Et alors, circonstance aggravante, vous écrivez « Ni l'on, ni l'Aisne ne sont faciles à orthographier. Certains ne savent même pas prononcer ces deux mots. »
Mais il y a encore des gens qui disent « Laon » au lieu de dire « L'an ». Je l'ai entendu dire dans des médias parisiens.
Oui, ceci dit, j'aurais pu la faire. Mais vous écrivez, c'est comme si l'Aisne n'était nulle part. Est-ce que vous avez choisi ces villes-là en fonction de leur degré de délaissement?
Alors, si je l'ai écrit sur l'Aisne comme si elle n'était nulle part, c'est parce que des gens me l'ont dit. Je n'aurais pas osé dire une chose pareille, mais beaucoup me l'ont dit. Donc, je me suis dit, il faut que je l'écrive.
Et le choix de ces 6 villes moyennes,
ce choix est tout à fait subjectif. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas Paris, Lyon, Marseille, ni leur banlieue. Je ne voulais pas non plus des villes qui ont été déjà l'objet d'une grande médiatisation. Par exemple, Lunel, où il y a eu ces réseaux djihadistes, aurait pu tout à fait m'intéresser. Mais comme ça a déjà été fait, je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs. Je voulais des villes vierges, entre guillemets, de toute couverture médiatique. Alors ça a été le cas de toutes, pendant que j'y étais, sauf une.
Ajaccio.
Où c'est quand même très étonnant, parce que moi j'y suis allée pour la première fois en juin 2015, il ne s'y passait rien, et puis finalement il s'est passé quand même dans la nuit de Noël, donc du 24 au 25 décembre 2015, un énorme événement dans ce quartier-là, puisqu'il y a eu des feux, que les pompiers sont montés pour les éteindre, qu'ils ont été caillassés par les jeunes du quartier, et que ensuite le lendemain, il y a eu des Corses qui sont montés en solidarité avec les pompiers, et que ça a fait tout un pataquès pendant 5-6 jours, et que tous les médias de France et de Navarre sont arrivés sur Ajaccio. Donc du coup, j'y suis retournée après les événements. Et donc, c'est ma seule ville, mon seul chapitre, parce qu'attention, à Ajaccio, je traite d'un sujet très compliqué, qui est le sujet de l'identité. Et c'est le seul chapitre, la seule ville dans laquelle je suis revenue, puis après des événements, puisque de gros événements médiatiques s'y étaient passés.
Il est temps de nous révéler votre petite ville personnelle, Anniva, vos habitants intimes, enfin bref, vos secrets d'écriture, quoi. Et bien, ça tombe bien, c'est l'heure du procès verbal. Votre nom?
Oui, Niva.
Votre prénom?
Anne.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
Assise, à une table, en bois.
Sur ordinateur ou sur papier?
Ah non, mais quand je suis sur le terrain, c'est évidemment dans toutes les positions possibles et imaginables et sur un carnet de notes avec un stylo bic. Et sinon, quand j'écris mon livre, que je le rédige, c'est sur ordinateur.
Vous êtes chez vous? Vous êtes au café?
Chez moi et dans le silence.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Je vois les merveilleux châtaigniers des Cévennes, puisque j'écris pratiquement uniquement dans une maison que j'aime énormément, qui est mon refuge Cévenol.
Quand vous écrivez, vous êtes habillée en jogging mou, très naturel, ou au contraire, c'est assez cérémonial, vous êtes apprêtée?
Non, je suis en talons aiguilles, comme quand je vais sur le plateau de Ruquier. Mais non, je plaisante! Bien sûr, je suis en jogging, évidemment, mou, etc., avec un vieux t-shirt, et personne ne me voit.
Avez-vous un rituel avant ou pendant l'écriture?
Ah bah c'est tout simplement qu'il faut que je sois en forme physique. C'est-à-dire, en fait, j'écris... Moi, je suis du matin. Et donc, j'écris après avoir fait du sport. Et après avoir écrit, je retourne faire du sport.
Le téléphone sonne. Est-ce que vous décrochez?
Ah non, le téléphone sonne pas. D'abord, mon téléphone, il est ni sur vibreur, ni sur rien du tout. Tout est éteint.
Votre pause, P-A-U-S-E, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites?
Je vais manger un poisson grillé que je me suis cuisiné, que m'a apporté ma poissonnière Cévenol, et à côté de ma piscine.
Qu'est-ce que vous faites quand ça vient pas?
Ah, ça arrive, hein, ça arrive. Ben, je m'énerve. Généralement, je ressors faire du sport. Je vais faire un tour, je monte un col, je marche.
Quel est le mot qui vous vient à l'esprit et qui suit le point final?
Ouf.
Merci Anniva, vous êtes libérée de ce procès verbal. Un petit détour par le groupe Dépêche Mode qui vient de signer un nouvel album et qui chante Where the Revolution. Mais ma parole, mais ils ont lu votre livre! Where is the revolution?
You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Making your decisions. You or your religion. Your government, your countries. Your patriotic junkies. Where's the revolution? Time.
Écoutez l'Amuse-Bouche sur France Inter avec Anne Niva pour son livre « Dans quelle France on vit ?» Une plongée dans les profondeurs de la France à travers 6 villes moyennes dépiautées par vos soins. Et ben, j'en connais moi des gens capables de sonder une ville grâce aux clients qui passent dans leur boutique. C'est un peu « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». J'ai nommé les libraires. Et alors, Anne Niva, je ne sais pas pourquoi, il y a un mystère. C'est très bizarre. Les libraires nous téléphonent. Je ne sais pas pourquoi.
Tiens
à cette heure-ci, à cette heure-ci. Ta, qu'est-ce que je disais? C'est une sonnerie de téléphone. Non mais ne faites pas cette tête.
Non mais
c'est les moutons des Cévennes.
C'est ce que j'allais dire.
Allô?
Oui, bonsoir Clara, j'appelle pour l'apéro.
Oh mais j'entends à votre voix que vous ne venez pas d'une ville moyenne, mais d'une grande ville bordée par la mer, je dirais au hasard Marseille.
Une très grande ville bordée par la mer, Marseille.
Ne seriez-vous pas Jérémy Banel de la librairie du Mucem à Marseille?
Lui-même, exactement.
Très beau.
Et alors, bonsoir, Jérémy.
Ce musée ouvert sur le large, un peu comme nous finalement, la Muse-Bouche, hein, esprit ouvert sur le large. Jérémy, quelle est la situation la plus farfelue que vous avez vécue dans votre boutique?
Alors, c'était pas dans celle-là, c'était un petit peu avant, à Aix-en-Provence, à peine plus loin. Et j'étais tout juste jeune libraire et j'ai eu une demande qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, à laquelle j'étais bien incapable de répondre. C'était une jeune femme qui voulait offrir à un enfant d'une amie qui venait de naître 18 livres qu'elle allait lui offrir année après année jusqu'à sa majorité.
C'est trop extraordinaire.
Et c'était... Alors j'ai été désemparé forcément, je pense que je le serai encore parce que je suis toujours pas très fort pour les livres pour enfants. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une super idée d'abord, très originale. Et puis pour un libraire, c'est vraiment super intéressant d'avoir quelque chose comme ça.
C'est accompagner la croissance, c'est beau. Hein,
mais vous les avez trouvés les 18 livres?
J'ai lâchement délégué ça à une de mes collègues à ce moment-là, qui j'imagine s'en est très bien tirée.
C'est très beau. Et quel est le livre, Jérémy, que vous conseilleriez à notre invitée Anne Niva?
Alors, le livre que je lui conseillerais, c'est une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Étienne Davodeau, et la bande dessinée s'appelle Les Mauvaises Gens.
Les Mauvaises Gens. Vous l'avez lu celui-là, Niva, ou pas?
Pas du tout, ça m'intéresse beaucoup.
C'est magnifique.
Et alors, il s'agit de l'auteur revient sur le parcours militant de ses parents, dans les Mauges, qui est un petit coin du côté de Cholet, et il revient donc sur leur parcours des années 45 à peu près jusqu'à nos jours. Et moi, du coup, j'y ai beaucoup pensé en le lisant. D'abord parce que Étienne Davodeau, c'est un peu un spécialiste, un des précurseurs en France du reportage en bande dessinée, des reportages longs, où il prend vraiment le temps de rencontrer les gens, d'être dans le temps de la conversation plus que dans l'urgence. Du coup, je pense que c'est une démarche qui peut être assez assez similaire.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Et il travaille beaucoup aussi sur la question du portrait. Il met beaucoup en scène les gens qu'il... Il met en scène les interviews en bande dessinée. Donc il y a vraiment un attachement à prendre le temps de décrire son interlocuteur, de le laisser discuter. Il a, à un moment, il en parle avec ses parents de son projet et il leur dit cette phrase « Raconter la vôtre de vie, c'est aussi raconter la leur, de tous leurs camarades ». Et je trouve que c'est quelque chose qui s'applique également à votre travail, puisque à travers certains portraits, il est question de brosser un tableau qui dépasse le cas de chaque individu. Et par ailleurs, il a un regard qui est très empathique envers son sujet, très positif, avec très peu de jugement. Il
très
est
humain,
vraiment dans
finalement.
La valorisation. Très humain, voilà, c'est ça. Dans la valorisation des réussites et puis d'une vraie, une vraie humanité qu'on retrouve effectivement. Et j'ai trouvé vraiment des vrais liens et des vrais ponts, si je puis dire. Donc,
vous nous rappelez, Jérémy, les références de la bande dessinée d'Étienne Davodeau?
Alors, Il s'agit de la bande dessinée Les Mauvaises Gens et elle est publiée aux éditions Delcourt.
Merci Jérémy Banel de la librairie du Mucem à Marseille et puis merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Meuse-Bouche. Jérémy, on vous attend pour partager un bon vin des terroirs. Venez.
Avec plaisir.
Et voilà. Bonne et on en... Merci Jérémy. Et on embrasse le CSA, hein, qu'il mérite bien, avec toutes ses références alcoolisées. Anne Niva, il est l'heure des inavouables. Oui, parce que, ah, on a beau être la reine de reportage, on est pas moins humaine, ah, bah, donc faillible. Sûr. Alors, y a-t-il une chanson, un film, une émission cataloguée un peu ringard que vous aimez en toute discrétion?
Oui, alors là, ça va devenir moins discret du coup. Alors, c'est une chanson. Une chanson. Ah. Qui s'appelle « Mon mec à moi » de Patricia Cass.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle de voiture.
J'adore ça.
Chanson sortie en 1988 dans l'album Mademoiselle Chante, écrite par Didier Barbelivien. Pourquoi oui. vous l'aimez celle-là?
Mais c'est cette voix, cette jeune femme toute frêle, etc., qui a cette voix extraordinaire comme une grande chanteuse de jazz. Et puis en plus, moi j'ai vécu 10 ans à Moscou et dans, à cette époque-là, donc jusqu'au milieu des années 90, des années 2000, elle était encore très 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 connue en Russie, Patricia Cass. Donc j'ai pu prolonger...
Cette
passion inavouable.
Et parmi vos inavouables, est-ce qu'il y a un film ou une émission de télévision?
Ah oui, oui, une émission de télévision.
J'ai l'impression qu'on tape dans le lourd, là.
Alors là, c'est du très très lourd.
Du lourdement inavouable.
Je ne sais pas si je vais oser le dire.
Bon, bah, quoi, vous en êtes.
Alors, c'est Tourner Manège.
Oh, alors oui, c'est du lourd, je vous confirme.
Alors, je vous présente Patrick.
Patrick de Paris.
De Paris, n'est-ce pas?
Bonjour papa,
Patrick
bonjour maman.
Patrick de Paris. Yves de Lyon.
Yves de Lyon. Bonjour à ma grand-mère. Allez. Je t'aime, grand-mère.
Oh, elle a quel âge, votre grand-maman?
Elle a 73 ans.
Thierry.
Moi, je vais adosser. Bonjour à papa, bonjour à maman.
Bon, ben voilà, les messages personnels sont passés. Il y a une jeune fille à côté qui, je l'espère, va être plus succincte. Il y a Marie-Noël.
Bonsoir. Bonjour.
Et Nathalie.
Bonjour.
Voilà.
Voilà. Jeu télévisé.
Non mais quand alors... ils se découvraient à la fin là, c'était extraordinaire
oui,
de
ça...
voir la mine de l'un et de l'autre.
Et alors ça a été diffusé chaque midi sur la chaîne numéro 1 de septembre 85 à juillet 93.
Chaîne numéro 1.
Oui, TF1. Et c'était présenté, vous vous rappelez, par Evelyne Leclerc,
oui.
par Simone Garnier, et oui. Fabien Dégal. Vous vous rappelez
Fabien Dégal, voilà, bien sûr, voilà. bien sûr.
Et elle est revenue un peu cette émission en 2009 et 2010. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette émission, Anne Niva?
Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire le mystère, le fait qu'on ne se connaisse pas, ces questions, l'illusion qu'on peut avoir, même en la regardant, que finalement ça va donner un couple. Je trouve ça formidable. J'aurais aimé trouver mon mari sur Tourner Manège.
On va lui passer un appel. Il aurait mieux vous rencontrer autrement. En tout cas, c'est sur ces paroles engageantes que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Venez que vous soyez d'une petite ville, de la campagne, d'une gigapole. Vous serez toujours les bienvenus. Dans Quelle France on vit de Anne Niva est paru chez Fayard. La semaine prochaine, nous recevrons Laurent Chalumeau pour VIP, paru chez Grasset. L'amuse-bouche est une petite bourgade gérée par Violaine Ballet, Chouchane Djergaillan, Thierry Dupin et Loïc Frapsos. Bonne semaine. N'oubliez pas de vous aimez vous les Français, car nous sommes debout dans l'adversité quand même. On vous embrasse et à samedi.
À samedi, Clara Dupont-Monod. À suivre d'ici d'ailleurs avec Zoé Varier. Ce soir, elle reçoit Vladimir Cosma.
Hé hey papy, c'est quoi ça?
Un appareil photo.
Mais les photos, ça se prend avec un téléphone.
Maintenant, oui. Regarde, on met le viseur devant un œil, on ferme l'autre et... Oh, c'est bizarre. Il y a une tache.
Ne comptez pas sur le hasard pour dépister votre dégénérescence maculaire liée à l'âge. Faites le test dès à présent et régulièrement. Si en cachant l'un de vos yeux, vous voyez une tache sombre immobile au centre de votre vision ou des lignes déformées, ce sont peut-être les symptômes d'une DMLA. Consultez dans les meilleurs délais un ophtalmologiste. Ceci est un message du laboratoire Novartis.
Belle soirée sur France Inter, il est 20h. Les infos, Léo Téchère, bonsoir.
Bonsoir à tous. Une semaine pour convaincre avant le premier tour de la présidentielle. François Fillon passe son dernier samedi de campagne au Puy-en-Velay. Pas anodin comme choix. En ce week-end pascal, le candidat Les Républicains s'adresse à l'électorat catholique depuis ce haut lieu de pèlerinage. Ce soir, il assiste à une messe avec des chrétiens coptes et demain, il révélera sur Radio J qu'il pourrait intégrer à son gouvernement des membres de Sens commun. Pourquoi pas, dit-il, Sens commun, mouvement lié à la manif pour tous. Benoît Hamon était, lui, à Angers aujourd'hui, François Asselineau à Marseille et Marine Le Pen à Perpignan. La candidate Front National dans la ville de son compagnon Louis Alliot pour taper sur Macron. Avec lui, ce sera l'islamisme en marche, affirme-t-elle. Il s'est évadé de l'hôpital psychiatrique hier soir à Sotteville-lès-Rouen. Un détenu de 32 ans est actuellement recherché par la police et la gendarmerie. Il venait à peine d'être admis dans l'établissement et s'en est enfui après avoir volé une voiture. La multinationale Areva condamne fermement le blocage d'un de ses trains aujourd'hui près de Narbonne. Des militants anti-nucléaires ont bloqué temporairement ce convoi transportant de l'uranium ce matin. Ils demandent l'ouverture d'un débat public sur le nucléaire. Ceux qui se sont battus pour la France et qui font le choix d'y vivre doivent pouvoir redevenir français. C'est la promesse de François Hollande faite aujourd'hui aux tirailleurs, dont 28 anciens combattants sénégalais ont été réintégrés dans la nationalité française aujourd'hui à l'Élysée. La réparation d'une injustice, selon le président. Les migrants de Grande-Synthe, tous mis à l'abri, 1061 personnes, très exactement, ont quitté les gymnases dans lesquels ils dormaient depuis l'incendie de leur camp près de Dunkerque. La plupart d'entre eux ont rejoint un centre d'accueil.
La France éternelle.
Oui, on n'ose plus prononcer aujourd'hui les mots d'identité, de France, de nation, de patrie, de racines, de culture. On est sommé de se faire discret. Eh bien non, nous prenons la parole. J'ai parlé tout à l'heure de la chanson de Roland. Dans ce récit guerrier, au cœur de la prose batailleuse, surgit tout à coup l'expression « douce France ». Déjà, la même expression qui sera popularisée par Charles Trenet, « douce France ». Ces mots sonnent justes.
François Fillon parle famille, transmission, patrimoine, langue française, patriotisme. Un discours aux côtés de Laurent Wauquiez, le président de la région, proche de la Manif pour tous. La même où Nicolas Sarkozy avait vanté les racines chrétiennes de la France en 2011, conseillé alors par Patrick Buisson, une France éternelle rattrapée par la France des casseroles sur les marges de la cathédrale. Le Puy, Yannick Fall, France Inter.
François Fillon qui pourrait intégrer à son éventuel gouvernement des membres de Sens commun, mouvement lié à la Manif pour tous. Il le dit à Radio J dans une émission qui doit être diffusée demain. Pourquoi pas, dit-il, Sens commun fait partie des hommes et des femmes qui sont fiers de leur pays, attachés à leurs traditions et pour lesquels j'ai beaucoup de respect, ajoute François Fillon, qui juge insupportable le discrédit que jette sur certains Français une partie des commentateurs et des élites politiques. François Fillon qui a été pris pour cible comme Emmanuel Macron par la candidate du Front National, Marine Le Pen, en meeting à Perpignan sur les terres de son compagnon Louis Alliot tout à l'heure, avec pour thème principal de son intervention la lutte contre le fondamentalisme islamiste, Aurélien Colli.
Peuple du Sud, ici nous sommes chez nous.
On attendait Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen et régional de l'étape pour chauffer le palais des congrès, c'est Robert Ménard, le sulfureux maire de Béziers qui s'en est chargé.
L'immigration de masse a tout balayé, elle a amené l'islamisme. En vérité, on veut nous effacer en tant que peuple.
Pour Robert Ménard, l'identitaire, la victoire est dans l'union des droites. Pour Marine Le Pen, dans un effet ni de droite ni de gauche. Mais à Perpignan, c'est bien les électeurs de François Fillon qu'elle va chercher en ciblant leur candidat.
Monsieur Fillon, je le dis solennellement, a multiplié les relations pour le moins troubles avec ces mouvances islamistes qui prônent la supériorité de la loi religieuse sur la loi de la République. Premier ministre de la Ve République, a inauguré en grande pompe une mosquée-cathédrale à Argenteuil en 2010.
François Fillon, pas clair sur la laïcité non plus, selon Marine Le Pen, qui n'épargne pas évidemment son autre concurrent, le candidat du mondialisme, Emmanuel Macron.
Avec Monsieur Macron, ce sera l'islamisme en marche, le communautarisme en marche. Voilà au moins un point clair dans le brouillard de son projet.
Et Marine Le Pen de dérouler ses propositions contre l'immigration avant d'appeler ses sympathisants à forcer les portes de l'Élysée grâce à leur vote dimanche prochain. Perpignan, Jean-Marie Porcher, Aurélien Colli, France Inter.
En campagne aussi, la Turquie jusqu'au dernier moment pour le président Erdogan qui joue demain l'avenir du régime parlementaire sur un référendum. Une victoire du oui renforcerait ses pouvoirs en supprimant notamment le poste de premier ministre. Et c'est pourquoi le président turc s'est investi personnellement dans la campagne avec cet après-midi encore un grand meeting à Istanbul. Claude Guibal.
Il est là. Enfin, une mer de drapeaux rouges s'agite. Certains sont venus de loin, plus d'une heure parfois pour le voir. Il est partout sur les gigantesques drapeaux qui flottent dans le ciel de Sarıyer, cette banlieue populaire d'Istanbul en bord de mer. Costume à gros carreaux, chemise bleue électrique, il est là aussi sur la scène. Il harangue la foule, plaisante parfois. Il y a des prompteurs, mais il ne les regarde pas. Recep Tayyip Erdogan, le tribun, sait parler au peuple. Tout y passe, les arguments du camp du non, démontés un par un. L'Europe, cette Europe dont il moque la faible croissance économique, à côté de celle de la Turquie et de ses presque 3%. Un peuple, un drapeau, un pays. Il joue la fibre nationaliste, promet un référendum sur le retour à la peine de mort. Dans la foule, une femme au voile clair et au front ceint d'un bandeau Erdogan exulte. Est-ce que ça ressemble à un dictateur, dit-elle. Il le dit, votez oui, votez non, votez comme vous voulez. Mais il dit que si on vote pour lui, voilà ce qu'il fera. Et si on me demande s'il fait ce qu'il promet, oui, depuis 13 ans, il tient ses promesses, conclut-elle. Les drapeaux s'agitent, la campagne s'achève. Demain, le président turc saura s'il a gagné son pari. À Istanbul, Claude Guibal, France Inter.
Et une victoire du oui pourrait entraîner le plus grand bouleversement politique du pays depuis la fondation de la République par Atatürk il y a près d'un siècle. En Syrie, au moins 43 morts dans un attentat suicide près d'Alep, un bilan provisoire. Un kamikaze a fait exploser sa camionnette près des bus qui transportaient des civils et des combattants tout juste évacués des localités voisines, localités pro-régime et qui étaient assiégées par les rebelles. Une fête de Pâques sous haute surveillance en Égypte pour les Coptes, une semaine après les deux attentats qui ont fait 45 morts dans deux églises d'Alexandrie et de Tanta. Les célébrations ont été réduites à leur plus simple expression. Les églises n'ont pas été décorées pour la messe de ce soir. Les cérémonies de demain matin ont été annulées. Certains dignitaires coptes dénoncent un climat général de persécution dont le gouvernement égyptien, de leur point de vue, n'a pas pris vraiment la mesure. Et puis au Sri Lanka, au moins 19 morts dans l'effondrement d'une montagne d'ordures, une pile de déchets de plus de 90 mètres de haut qui s'est écroulée sur les cahutes d'un bidonville en banlieue de la capitale, Colombo. Quand les Guyanais annexent la place de la République à Paris, 2 à 300 personnes venues manifester leur soutien au mouvement social lancé depuis bientôt 3 semaines, outre-Atlantique, Guyanais, mais aussi Guadeloupéens et Martiniquais, Yann Gallic.
Des manifestants rassemblés autour d'un podium avec des drapeaux, des t-shirts et des chapeaux verts, jaunes et rouges, les couleurs de la Guyane. Sur scène, les organisateurs du rassemblement reprennent encore le même slogan, la Guyane levée, la Guyane debout. Ivan Goua fait partie du collectif guyanais des 500 frères contre la délinquance.
En Guyane, il y a des communes où il n'y a pas d'eau potable et il n'y a pas d'électricité. En Guyane, il y a 5 à 6 000 enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de place. La population guyanaise dit stop. L'État doit prendre en main ce problème-là. Et l'État, quel qu'il soit, que ce soit Hollande aujourd'hui au gouvernement, que ce soit demain Fillon ou Macron, il faut régler le problème de la Guyane.
Les Guyanais restent mobilisés donc pour améliorer l'éducation, la santé et la sécurité sur leur territoire. Un mouvement social soutenu par tous les ultramarins comme Jean-Michel Martial. C'est le président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer.
Quand on dit liberté, égalité, fraternité, il est important et nécessaire que l'égalité se retrouve exprimée, défendue sur tout le territoire, que l'égalité soit effective entre l'Hexagone et les différents territoires français. Or, on s'aperçoit, si on compare l'outre-mer français et la Guyane en particulier, qu'il y a des différences flagrantes qui ne sont pas admissibles.
Le gouvernement a promis de débloquer plus d'1 milliard d'euros pour la Guyane. Insuffisant, répondent les manifestants qui réclament au moins 2 milliards supplémentaires.
Et les barrages ont été ouverts ce week-end en Guyane pour ne pas perturber les fêtes de Pâques. Les camions exceptionnellement autorisés à circuler. Un navire chargé de migrants en détresse en mer ionienne. Il a été escorté par les gardes-côtes grecs jusqu'à l'île de Céphalonie. Ses occupants sont sains et saufs. Mais voilà un nouvel épisode d'une situation dont on parle moins, mais qui reste d'actualité, au point qu'aux rencontres annuelles de l'UOIF, la controversée Union des organisations islamiques de France, tout ce week-end au Bourget, les visiteurs peuvent se mettre virtuellement dans la peau d'un réfugié. C'est l'une des façons qu'ont trouvé les organisateurs pour illustrer le conflit syrien. Il y en a d'autres, Julie Pietri.
C'est par exemple un chef réfugié syrien qui tient l'un des stands de pâtisserie orientale. Un peu plus loin, une organisation de secours qui travaille en Syrie a reconstitué une chambre d'hôpital. Mais le Secours islamique de France, lui, a fait un choix radical, choquant, mais terriblement efficace. Un simulateur de réalité virtuelle.
Oh non, qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas, le moteur s'est arrêté d'un coup.
Avec un casque sur la tête, vous vous retrouvez dans le noir sur un frêle bateau à moteur qui tombe en panne, qui manque de se faire renverser par un cargo géant. Autour de vous, des femmes, des enfants, c'est tellement réel qu'on en ressort brinque-ballant. Imed El Koki fait partie de l'équipe qui anime le stand.
On a essayé de mettre en scène le parcours de ces réfugiés.
De loin, j'avais l'impression que le monsieur, là, il essayait de nager.
Exactement. Alors, ce que vous voyez, la personne qui bouge ses bras, elle doit rejoindre un canot de sauvetage. Et on est dans la peau, en fait, de ces réfugiés-là. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, faire vivre cette expérience-là à des personnes qui sont là pour leur montrer la réalité, tout simplement, des personnes qui fuient ces zones de conflit.
L'objectif, sensibiliser, bien sûr, toucher des personnes qui ne l'étaient peut-être pas jusqu'ici, alors que les morts se multiplient en Méditerranée.
Sus au colza OGM à Villy-le-Moutier en Côte d'Or. Plusieurs dizaines de faucheurs volontaires ont partiellement détruit une parcelle de colza du groupe allemand KWS, spécialisé dans la sélection végétale, et dont les militants anti-OGM dénoncent les objectifs cachés. Thomas Nougaillon.
Les militants anti-OGM accusent KWF de vouloir mettre au point une technologie qui permet d'obtenir des variétés de colza et de tournesol rendues tolérantes à un herbicide. Pour ces faucheurs volontaires, ces variétés sont des OGM cachés, des OGM issus de mutagénèse. Michel Picoche est agriculteur bio à Fin-les-Moutiers, près de Montbard.
Ils prennent des cellules de colza, ils les trafiquent par mutagénèse dans des laboratoires, après ils reconstituent les plantes qui deviennent résistantes à un nouvel herbicide. Ils sentent que le glyphosate va être interdit dans quelques années en France et voire en Europe, et donc ils travaillent maintenant avec des nouveaux herbicides. C'est clairement des OGM.
Les faucheurs d'OGM veulent un débat dans l'opinion publique sur cette question. Jean-Luc Jutier, un paysan de la Loire, est venu lui aussi faucher ses colzas et il nous dit pourquoi.
On a un gros problème aujourd'hui avec les firmes semencières, c'est qu'elles refusent de communiquer sur le mode d'obtention de leurs variétés. Et on est prêt à assumer la suite judiciaire s'il y en a une. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'opinion publique soit informée. C'est ça aussi notre but, quoi.
Les faucheurs volontaires avaient déjà sévi en Côte d'Or en novembre 2016 et janvier 2017. Ils étaient intervenus dans des champs appartenant au groupe Dijon Céréales sur les communes de Marsanais-le-Bois, Darrois et Messigny-et-Ventoux. L'un de ces faucheurs doit d'ailleurs être entendu début mai devant le tribunal de grande instance de Dijon. Thomas Nougaillon, France Bleu Bourgogne pour France Inter.
Et l'entreprise en cause conteste mener des recherches OGM sur cette parcelle. Elle dénonce la destruction d'un an de culture. Ils étaient venus du Sénégal principalement, mais aussi du Congo ou de Centrafrique. 28 anciens tirailleurs ont été naturalisés de façon très solennelle à l'Élysée, où le chef de l'État a rappelé leur engagement dans les rangs de l'armée française, en l'occurrence en Indochine et en Algérie. Quand leurs parents et grands-parents avaient fait les deux guerres mondiales, ils furent près de 200 000 tirailleurs dans les tranchées de 14-18, dont beaucoup furent tués, notamment au Chemin des Dames, l'offensive insensée lancée par le général Nivelle, pour rien d'ailleurs, puisque le front n'a pas bougé d'un mètre. C'est à tous les poilus du Chemin des Dames que le président de la République rendra hommage demain du côté de Craonne, où des passionnés d'histoire ont reconstitué à Cormicy, très précisément, les conditions de vie de l'époque dans un campement. Delphine Evenou.
Sur ce petit lopin de terre, des tentes en vieille toile tournées vers la place d'armes, un drapeau hissé, William, 25 ans, apporte les fusils.
Les caisses de munitions, les caisses de fusils, les caisses de cantine, tout ça, c'est nous qui faisons. Les brodequins, donc les chaussures, c'est des originaux, le bouteillon, tout ça, c'est original, le casque aussi.
Nous sommes en plein conflit, ou presque. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. La ferme familiale de Michael a vécu le tonnerre d'obus.
Quand mon arrière-grand-père a construit la ferme, ils ont retrouvé la plupart des soldats qui sont enterrés maintenant à la nécropole. Ils les ont retrouvés ici. Les soldats qui étaient blessés ou même morts, qui étaient en première ou deuxième ligne, étaient rapatriés ici. Le cimetière se trouvait ici, en fait.
Dans la région, chacun est marqué par l'histoire, une histoire longtemps tue. Sylvain est président de l'association La Bayonnette.
Verdun, c'est une victoire française, donc personne ne l'oublie. Que le chemin des dames, personne ne voulait en parler. C'était une défaite, c'était une boucherie, donc on n'en parlait à personne. C'est peut-être grâce au centenaire que l'honneur leur arrive enfin.
Un hommage aux soldats qu'ils veulent perpétrer.
Il ne faut pas que ça s'oublie, donc les nouvelles générations sont aussi là pour transmettre à la future génération d'après, etc. etc. Donc la reconstitution, c'est un bon moyen, et aux plus grands et aux plus jeunes, de se rendre compte de la vie des soldats.
En 10 jours, 30 000 poilus ont été tués au chemin des dames et 100 000 autres blessés.
Et c'est à l'issue de cette bataille qu'avaient éclaté des mutineries dont les auteurs, des soldats épuisés par la guerre, ont été durement sanctionnés, pour certains même exécutés. En Ligue 1 de football, le PSG accroché au rocher, comme dit joliment l'équipe ce matin, 2-0 hier à Angers. Les Parisiens ont recollé aux Monégasques qui recevront Dijon tout à l'heure. Quant aux Niçois, ils restent dans la course au titre après leur victoire il y a quelques instants 3-1 face à Nancy. Les voilà définitivement au moins troisième, Vivien Seller.
L'OGC Nice terminera cette saison sur le podium de la Ligue 1. Grâce à leur victoire 3-1 face à l'AS Nancy Lorraine cet après-midi sur leur pelouse, les Niçois sont assurés de terminer parmi les trois premiers du championnat. Et pourtant, les joueurs de Lucien Favre se sont fait surprendre par l'ouverture du score Lorraine en première période. Mais à l'image de leur saison, les Aiglons n'ont pas douté bien longtemps. L'ancien Havrais Mickaël Le Bihan est d'abord venu égaliser en première période, avant que l'Ivoirien Jean-Michel Seri ne s'offre un doublé au retour des vestiaires. Les joueurs de l'AS Nancy Lorraine n'ont pas démérité, mais la défense niçoise a su rester solide jusqu'au bout. Pour la première fois depuis 1976, la formation azuréenne terminera la saison sur le podium de la Ligue 1. Une juste récompense pour les joueurs de Lucien Favre, toujours invaincus sur leur pelouse cette saison. En revanche, la mission maintien se complique pour les Nancéens, 17e avec 31 points. Et si le podium de la Ligue 1 est déjà assuré, la lutte pour le maintien, elle, risque d'être serrée jusqu'au bout. Nice, Vivien Seller, France Inter.
Un résultat du top 14 de rugby, la victoire de Toulon sur Castres, 23-14. Le RCT qui se rapproche d'une qualification pour les phases de finale, pour les phases finales. Un Français champion du monde en cyclisme sur piste, tout à l'heure à Hong Kong. C'est Benjamin Thomas qui a remporté l'épreuve de l'Omnium. Des veuves noires, des scorpions, des méduses, des serpents, âmes sensibles s'abstenir au musée des Confluences à Lyon. Nouvelle exposition consacrée au poison, artificiel ou naturel. Animaux venimeux et toxiques à l'appui, Maurice Fusier.
Beaucoup de monde pour l'ouverture de cette exposition consacrée au venin, tout en sachant que les animaux vivants et peu fréquentables sont installés dans des cages en verre avec double épaisseur. Carole Millon est la responsable de cette exposition.
La thématique du poison n'a pas été abordée souvent dans les musées en France, et c'est vrai que ce qui nous intéressait là, c'était de pouvoir montrer des tableaux pour évoquer l'histoire, notamment des empoisonneurs et puis des empoisonnés. Et la spécificité aussi de l'expo à Confluence, là, c'est d'avoir quelques animaux vivants, venimeux et toxiques, ce qui est un vrai défi aussi.
Vrai défi et récompense quand on découvre combien les visiteurs sont intéressés.
C'est une première fois que je vois des grenouilles exotiques, amazoniennes. Leur faculté de se défendre avec ces poisons, c'est assez extraordinaire.
Mais comme toujours, le meilleur public, ce sont les enfants. Clémence, 7 ans.
Ça m'a bien plu.
Tu as vu les petites grenouilles ?
Oui, elles sont mignonnes et elles sont aussi très venimeuses. Mon papa m'a dit qu'il ne fallait pas les toucher.
Veuve noire, mygale et autres serpents, que du bonheur pendant 9 mois au musée des Confluences. Lyon, Maurice Fusier, France Inter.
Et déconseillé bien sûr aux arachnophobes et autres ophiophobes. Elle était la doyenne présumée de l'humanité à l'instant. On apprend la mort d'Emma Morano, italienne, morte à son domicile de Verbania dans le nord de l'Italie. Elle avait 117 ans. Elle était la dernière survivante connue du 19e siècle, née donc le 29 novembre 1899. Sur la route, bison futé voyait orange pour ce week-end de Pâques, l'un des plus chargés de l'année, et même rouge en Rhône-Alpes.
Eh oui, il y a eu beaucoup de circulation aujourd'hui sur l'A7 en descendant vers le sud, mais aussi en remontant l'A11 vers Paris, mais désormais ces axes-là sont fluides. Il y a juste quelques ralentissements encore près des plages. Côté Méditerranée, ça bouchonne entre Mandelieu et Cannes-sur-Mer via la route du littoral. À l'ouest, c'est la traversée du pont de l'île de d'Oléron qui est compliqué. Vous mettez plus d'une heure pour arriver sur l'île. Et pour demain, notez que la journée est classée vert par Bison Futé, sauf l'île de France qui est en orange pour les retours.
Lola Fourmi au PC Mobilité de Radio France. Bonne soirée.
Merci Yves Decan. La météo dans un instant. La météo avec Massif. Vous avez le pouvoir de réduire le coût de votre prêt immobilier en changeant d'assurance emprunteur. Rendez-vous sur massif.fr. Le temps avec les prévisions météo, celles de Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, les œufs de Pâques risquent d'être mouillés entre le nord de la Seine et le quart nord-est et de l'Auvergne à Rhône-Alpes en raison des pluies faibles. Ce temps maussade va persister une bonne partie de la journée près de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, tandis que du Massif central à Rhône-Alpes, l'ambiance deviendra rapidement plus lumineuse. Sur le reste du pays, on peut miser sur le retour d'éclaircies plus larges près de l'océan et le bleu va primer autour de la Méditerranée, mais avec un mistral et une tramontane vers 80 km/h, le vent de nord-ouest sera également désagréable près de la Manche. Les températures comprises le matin entre 3 et 8 degrés en général dans l'intérieur vont afficher un bon 20-25 degrés l'après-midi dans la moitié sud. Dans la moitié nord, comptez sur simplement 12 à 13 degrés sur les côtes du nord à l'Alsace, 15 des terres bretonnes au Val-de-Loire et sur le bassin parisien. Lundi, dans des températures stationnaires, l'ensoleillement sera meilleur à l'ouest et au sud que du nord de la Seine au quart nord-est où le temps plus mitigé va s'accompagner d'ondées.
Tous les samedis à partir de 20h sur France Inter.
D'ici, d'ailleurs. Ils viennent du monde entier et sont venus vivre en France.
Zoé Varier.
Vladimir Cosma est né à Bucarest en 1940. Il avait 22 ans quand il est arrivé en France et les premières années à Paris, il gagnait sa vie en jouant du violon jusqu'au jour où il a remplacé Michel Legrand au pied levé. Ce soir, il nous raconte son histoire.
D'ici, d'ailleurs, ce samedi sur France Inter.
À ce soir.
À partir de 20h.
Très bon week-end de Pâques sur Inter. Place à Clara Dupont-Mono, l'amuse-bouche, et son invité, la journaliste écrivain Anne Niva.
Merci, les prochaines infos à 20h. Bonsoir les amis des livres et des apéros. Pour sonder un pays, il faut des chiffres. Il faut des portraits types, des cases, des échantillons. Les sondeurs ont plus de poids que les intellectuels. Ils mettent le pays en pourcentage. Ils prennent son pouls avec une calculette. Mais pas du tout, s'indigne la littérature. Mais ça va pas, non. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mateuse, cette Dupont-Mono. Regardez du côté des livres, c'est exactement l'inverse. Pour sonder un pays, il faut des mots, pas des chiffres. Les vrais sondeurs, ce sont les écrivains. Comment comprendre l'Afghanistan sans avoir lu Les Cavaliers de Joseph Kessel? Aucun roman n'a mieux dépeint ce pays, ses montagnes, ses steppes et ses jeux. Et l'Algérie, peut-on la saisir sans avoir lu Albert Camus? Aucune étude de l'INSEE ne peut rivaliser avec Nos. Et le microcosme parisien, peut-on le radiographier mieux que Balzac? Le quartier latin des illusions perdues vaut largement une étude de la Saufresse. La réalité est une affaire de mots, pas de numéros. Et s'il faut encore une preuve, elle est là. Elle s'appelle « Dans quelle France on vit » de Anne Niva, paru chez Fayard. Anne Niva est reporter de guerre. Elle a été en Irak, en Tchétchénie, en Afghanistan. Mais la France? La France est en guerre, justement, annonça François Hollande le 16 novembre 2015. Alors, la reporter est allée arpenter son pays. Elle a choisi six villes. Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier, Ajaccio. Avec six thèmes, de l'emploi à la sécurité en passant par la jeunesse. Anne Niva a dormi chez l'habitant, a beaucoup tendu l'oreille, s'est incrustée dans les réunions, les brigades, les dîners familiaux. Éponge, mais néanmoins dotée d'une sensibilité, elle a transcrit ces choses vues, propres à Victor Hugo, mais aussi entendues et ressenties. En découle l'instantané d'un pays, le nôtre, et sur ce photomaton, la France grimace. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Anne Niva, avec un bon cidre de la Mayenne. Elle nous livrera ses secrets d'écriture, gardés comme un calvados en Normandie, ce sera le procès verbal. Nous révélera ses vices culturels, comme on hume un vin corse, ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire, gardien de toutes les géographies, ne vienne éclairer nos villes intérieures.
France Inter. L'amuse-bouche. Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Anne Niva.
Bonsoir.
En 1990, vous étiez à peine née, François,
c'est ça, oui.
François Maspero publiait « Les passagers du Roissy Express » dans lequel il racontait la France vue depuis le RER. Et il disait ceci.
On ne peut pas aller en Chine et puis ensuite se replier chez soi et ne pas aller voir ce qui se passe à ce qu'on va voir en Chine et ce qu'on ne va pas voir à 100 mètres de chez soi. Moi, j'avais été frappé une fois, comme ça, il y a très très longtemps, je voyais des gens qui débarquaient, des intellectuels de gauche qui débarquaient dans un pays du tiers-monde, socialiste, et qui se faisaient montrer des réalisations fantastiques, mais ils visitaient des usines de textile, par exemple, et jamais ils avaient visité une usine de textile de leur vie en France. Il n'était pas question qu'ils le fassent jamais, mais ils trouvaient ça admirable. Donc, il fallait, bon, c'est aussi toutes ces histoires de voyage qu'on voit ces dernières années, c'est passionnant, mais bon, le voyage, il commence effectivement rue Montorgueil, quoi, ou sur la ligne du RER.
Est-ce que votre livre est parti du même constat, Anniva, c'est-à-dire le voyage commence sur la ligne du RER ou du train Corail?
Mais évidemment, et d'ailleurs je cite François Maspero, le grand reportage ou le reportage, je sais pas pourquoi en français on dit grand reportage, commence en bas de chez soi. En bas de chez soi, c'est juste sortir de chez soi et aller regarder tout le reste. Moi, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, la Tchétchénie ou la France, c'est la même chose. Je dirais, c'est la même chose dans ma façon de travailler, dans ma curiosité. C'est la même curiosité. Et j'ai adoré votre introduction, chapeau, parce qu'effectivement, je ne cesse de dire aux uns et aux autres que je ne suis pas sondeuse chez IFOP. Que justement, quand on me pose des questions, c'est pas pour avoir des chiffres. Je ne m'adosse pas sur des chiffres. J'ai essayé d'aller voir en toute subjectivité, c'est-à-dire je ne prétends aucunement justement à ce caractère objectif et très cru des chiffres. Moi j'aime l'humain, et l'humain c'est complexe, c'est paradoxal. Mais ce qui est bien, c'est que l'humain ça raconte des histoires.
Vous rencontrez des tas de gens, des associatifs, des patrons, des postiers, des profs, des chômeurs, ouais, etc. Votre regard, vous l'avez dit, n'est jamais complètement neutre, c'est
non,
assumé.
Bien sûr.
À partir de là, où est-ce que vous mettez le curseur de l'empathie? C'est compliqué quand même.
Mais il n'y a pas de curseur de l'empathie pour moi. C'est la même question qu'on me posait quand j'étais en Irak, en Afghanistan, et qu'on me disait, mais comment on fait quand on est face à un djihadiste? Est-ce qu'on le déteste tellement que finalement on ne peut pas lui parler, etc. Ça me fait penser au vote FN en France. Il y a beaucoup de gens à qui je n'avais pas envie forcément de parler politique, qui m'ont parlé politique, qui me disent qu'ils vont voter FN. Est-ce que pour autant je quitte l'entretien et je vais voir ailleurs? Non. Moi, je crois qu'il faut écouter tout le monde, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête de mon interlocuteur. Parce que moi, si j'ai pas mon interlocuteur qui me raconte des choses, je suis pas romancière, Clara Dupont-Moneau, je suis pas comme vous. Moi, je peux pas inventer, j'y arrive pas. Je suis coincée.
Je suis un petit peu journaliste aussi, quand même.
Oui,
un
mais dans peu. Vos livres, oui. Dans vos romans, je parlais de vos romans, parce que vous avez plusieurs talents. Mais donc, je suis une obsédée du réel. Donc, je me nourris du réel. Et le réel, je crois qu'il faut le regarder en face. C'est aussi ça que j'ai eu envie de montrer dans ce livre. C'est-à-dire que ce sont les malaises en France, les malaises français, un certain déni, des angoisses existentielles que j'ai eu envie de raconter à travers six villes de France. Et puis, une fois que j'ai été en face à face avec ces gens de toute catégorie sociale, de tout milieu, qui à chacun leur façon me racontaient leur angoisse, que ce soit pour l'emploi, parce qu'il n'y a pas que ceux qui cherchent un emploi qui sont angoissés. Il y a ceux qui en ont un aussi, qui ont peur, qui sont angoissés de le perdre, étant donné le contexte de la crise actuelle. Il y a le malaise des jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place. Ça a l'air vraiment simple ce que je dis, mais ce sont des choses qu'on ne raconte pas souvent. Et là, je voudrais simplement citer Flaubert, l'exergue de mon livre. Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. C'est ce que Gustave Flaubert écrivait à Alfred Le Poitevin en 1845. Voilà, c'est l'anti-scoop. Bien sûr que les journalistes se doivent d'aller sur le terrain quand il y a un événement, etc. Mais ils peuvent aussi y aller quand il ne se passe rien ou quand on a l'impression qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, c'est pas vrai, il se passe jamais rien. Et c'est justement cela que j'ai envie de montrer. Cette France-là qui vit, qui malgré le fait qu'elle se plaint, bien sûr, et qu'elle a plus confiance ni en ses politiques ni en ses médias, elle a des choses à dire.
À Montluçon, Christine vous dit, justement, Pôle emploi, ils m'ont convoqué une fois et ils m'ont dit que c'était pas la peine. Jean-Michel Ranchéry, il dit, tout le monde s'en fout. Ce thème, le cinéma s'en était déjà emparé avec notamment la loi du marché de Stéphane Brisé.
Il faut dire aux gens, prévenez les gens. Dites-leur, n'envoyez pas les gens faire un stage si vous savez pertinemment bien qu'il n'y a rien à l'arrivée. Je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi avec les gens, on les traite bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, moi, je suis là dans votre bureau, ouais. J'ai l'impression de venir indéfiniment et...
Après, le souci, monsieur, c'est que les employeurs, c'est eux qui décident de recruter. C'est pas à nous. Donc nous, effectivement, on essaie de cibler des formations ou des emplois. Là, honnêtement, sur...
Je ne suis pas le premier, vous le savez très bien, quand on m'envoie sur un stage de grutier... Je suis pas le premier, je vous dis, on était 15, il y en a 13 qui sont revenus, qui ont jamais mis les pieds sur un chantier. et pour qui ça a servi à rien. Je suis pas le premier.
C'était un film, La loi du marché, sorti en 2015, avec Vincent Lindon qu'on vient d'entendre. Il s'agit bien de ça, Aniva, un sentiment d'abandon.
Non mais c'est extraordinaire ce qui est dans ce film. C'est que c'est exactement la réalité de ce que m'ont relaté des gens qui travaillent à Pôle emploi, parce que j'ai parlé à des demandeurs d'emploi, mais j'ai parlé aussi à des gens qui travaillent chez Pôle emploi. La simple conseillère que vous voyez, mais également une psychologue chez Pôle emploi. Et tous à Pôle emploi m'ont dit la même chose. Ça leur fait du mal d'être les seuls à dire la vérité à ceux qu'ils ont en face d'eux. Notamment cette psychologue Pôle emploi, Sidonie, qui me dit « Nous sommes le dernier rempart contre la révolte, nous, à Pôle emploi. » Et c'est vrai que les gens qu'ils ont devant eux souhaiteraient que par un coup de baguette magique, ils leur trouvent un emploi. Et c'est vrai que ceux qui sont employés chez Pôle emploi n'ont pas cette baguette magique et qu'ils aimeraient que les dirigeants de Pôle emploi et plus largement les politiques que nous allons élire parlent plus franchement de cette question de l'emploi qui fait peur à tout le monde. Or, personne n'ose dire la vérité. Et la vérité, c'est comme le dit Christine, cette femme qui a 50 ans, le mauvais âge, et qui était ancienne secrétaire, son travail n'existe plus, donc elle n'arrive pas à trouver un travail, un CDI, sûrement pas, alors elle trouve des CDD, voire des CDD d'une demi-heure, de l'intérim, une demi-heure par une demi-heure.
Vous vous intéressez aussi à une région où le taux de chômage, à l'inverse, est très bas. Oui. C'est le cas de la Mayenne. 6,8% de chômage en 2016, la moyenne nationale étant de 10,2. Quelles sont vos explications pour expliquer un taux de chômage aussi bas?
Alors c'est vrai que donc, en fait, je n'ai pas 6 thèmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai 6 villes, mais 5 thèmes. Parce que l'emploi, pour moi, est tellement important que je l'ai traité dans 2 villes.
Des deux côtés.
À Montluçon, du côté dont on vient de parler, et à Laval, de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de l'employeur, même du patron, je dirais. Eh bien, j'ai effectivement fait connaissance de la Mayenne, de cette ville de Mayenne, dans laquelle il semblerait qu'il y ait quand même une solidarité entre entrepreneurs qu'on ne trouve pas partout en France. Ce qui est compliqué, ce sont les statistiques du chômage. Ça, tout le monde s'accorde à le dire, hein, tous les acteurs sur le marché de l'emploi, y compris ceux qui travaillent chez Pôle emploi. Et il semblerait qu'il y a beaucoup de jeunes de Mayenne qui quittent la Mayenne pour aller chercher de l'emploi ailleurs et qui ne sont donc pas comptabilisés. Donc ça aiderait aussi à avoir un chiffre bas, parce que la Mayenne n'a pas la baguette magique pour trouver de l'emploi à tout le monde non plus. Il y a aussi énormément de personnes qui sont en Mayenne et qui malheureusement auront beaucoup de mal à trouver de l'emploi. Et ce sont les gens qu'on appelle très pudiquement, et cela m'agace beaucoup, les plus éloignés de l'emploi. C'est comme ça qu'on appelle quelqu'un dont on est pratiquement sûr à Pôle emploi qu'il ne retrouvera pas un emploi.
C'est à Laval aussi que vous auscultez le stress des petits et des moyens patrons. Oui, ça, oui. C'est un sujet assez tabou. On ne parle pas de cette souffrance-là, vous dit l'un d'eux.
Oui, alors j'ai deux personnes. J'ai Sonia, avec laquelle je commence le chapitre dans un déjeuner entre femmes. Mais il y a aussi cet autre entrepreneur, chef d'entreprise de la 6e génération, d'une entreprise familiale de textile, une grosse entreprise, qui me parle effectivement, je dirais presque que ça lui a échappé quand on en a parlé, de sa solitude à la tête de son entreprise, et en fait du fait qu'il en souffre et qu'il a besoin d'une psy, d'un coach. Et quand il me l'a dit, je lui ai demandé si je pouvais l'écrire. Il a hésité au départ, mais il ne va pas hésiter très longtemps. Il a osé le dire, le publier. Et je trouve que c'est tout à son honneur. Donc lui, comme Sonia et comme bien d'autres, explique qu'effectivement, on met toujours l'accent sur les difficultés qu'ont les employés. Et Dieu sait s'ils en ont. Mais les employeurs aussi. Les employeurs aussi se sentent seuls, se sentent angoissés et ont du mal à dormir le soir parce qu'ils ont toutes ces responsabilités-là sur les épaules.
Votre livre aurait pu s'appeler Un jour en France, finalement, Anne Niva.
Oui.
Oui, ben en fait, non. Ça n'aurait pas été possible car d'autres y ont pensé avant. Noir Désir, par exemple, chanté Un jour en France, c'était en 1996. Et c'est l'hymne de votre livre.
Qui se trame ici, elle danse avec Johnny. Se rappelle de la France. L'amuse-bouche sur France Inter.
Anne Niva est avec nous jusqu'à 20h pour son livre « Dans quelle France on vit ? Six petites villes françaises passées au crible de son regard
journalistique. » Moyenne, Clara, pas petite.
Petite ville moyenne. Ville moyenne, passée au crible de son regard journalistique. Et bien justement, Anne Niva, écoutez l'historien Pierre Rosanvallon qui parle de cette démarche.
Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont comme muettes dans la société. Elles n'ont pas droit à la parole. Elles sont dans leur coin. Elles sont à la fois isolées, avec un sentiment d'oubli, un sentiment de solitude, un sentiment de ne pas être pris en compte. Donner la parole à tous ceux que l'on peut qualifier d'un mot commun d'invisible. Pourquoi invisible ? Ils ne sont pas invisibles. Tout le monde existe bien dans la société, avec sa vie, son travail, son quotidien. Mais invisible pour les institutions, invisible pour les partis, invisible pour les médias.
Prendre en compte les laissés pour compte, c'était Pierre Rosanvallon. Anne Niva, du coup, est-ce que votre livre est de gauche ?
Non, mais c'est pas parce que Rosanvallon est de gauche et que je suis d'accord avec lui que je suis de gauche ou de droite, ça n'est pas le problème. Vous savez, j'ai énormément de retours de ce livre depuis qu'il est paru. Et alors, il y a des gens qui me disent « Ah bon, alors vous êtes de gauche », il y en a d'autres qui me disent « Vous êtes de droite », on est insulté qu'on soit de droite ou de gauche. De toute façon, personne n'est jamais content. Donc, c'est pas ça l'important. Mais je crois qu'on on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que dit Rosanvallon là. Moi, je suis une puriste, comme je l'ai dit du terrain tout à l'heure, et j'ai une grande déontologie, c'est-à-dire de l'honnêteté. On peut me taxer de tout, mais pas d'être malhonnête. C'est-à-dire que je n'ai fait que retranscrire, et donc transmettre, et donc partager, des propos qui m'ont été tenus.
Donc c'est donner une voix aux sans-voix.
Absolument. Et ces sans-voix en question, qui ont lu le livre aujourd'hui, aucun d'entre eux ne s'est exprimé pour dire « Anne Niva a transfiguré mes propos et les a mal répétés ». C'est pas vrai. Donc c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et même si ça fait du mal à entendre.
Il y a des habitants qui l'ont mal pris. Est-ce qu'il y a une ville à un moment qui a un peu râlé ou un peu tiqué parce qu'elle disait ça me représente pas ?
Oui, il y a la ville de Lons-le-Saunier où je suis allée vendredi soir, où effectivement il y avait au départ la PQR qui n'avait pas compris que j'avais accolé un thème à une ville. Et effectivement, le thème pour Lons-le-Saunier, c'est le sentiment d'insécurité. Ce qui ne veut pas dire qu'à Lons-le-Saunier, il y a
que c'est un coupe-gorge.
Voilà, exactement. Et ça ne l'est pas du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le commissaire de police était perplexe quand je lui ai demandé l'autorisation d'aller faire une tournée de nuit avec sa BAC, parce qu'il m'a dit « mais allez dans les quartiers nord de Marseille ». Bon, mais avec mon explication, la PQR a compris que moi, je n'ai aucune prétention à raconter une ville dans toute sa complexité et au jour le jour, comme le fait la PQR. En revanche, ce que j'ai voulu faire, bien ou mal, mais en tout cas ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est illustrer dans chacune des villes, un thème qu'il me paraît être une préoccupation des Français.
Justement, vous parliez de Lons-le-Saunier, vous avez embarqué pour une nuit avec la brigade policière de nuit, et là, on découvre le désespoir des policiers.
Policiers en colère ! Policiers en colère ! Policiers en colère !
C'est un vrai cercueil. Avec le drapeau, c'est exactement en fait ce qui représente le collègue lorsqu'il décède en service, puisque on met un drapeau français et il y a toute une cérémonie, tout un cérémonial qui est fait. Donc c'est pour dénoncer le manque de moyens, le manque d'effectifs et la mise en danger de la police et donc de la population par en conséquence.
Les manifestations de policiers en 2016 après l'agression de Viry Châtillon. Anne Niva, de quoi se nourrit le désespoir des policiers ?
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ça a commencé en plein quand j'étais à Lons-le-Saunier et que mon thème était celui-là. Donc je me suis dit, vraiment là, j'ai de la chance, j'ai bien choisi. Donc j'étais vraiment très contente d'essayer de comprendre ce malaise des policiers. Mais avant de comprendre ce malaise des policiers, enfin, il faut comprendre en même temps, même pas avant, en même temps, comment ils travaillent et en quoi consiste leur travail. Et là, j'ai quand même en mémoire quelque chose que m'a dit une policière, alors que la nuit était très longue à Lons-le-Saunier, que je passais la nuit avec la BAC, et que justement, parce que Lons-le-Saunier n'est pas un coupe-gorge, il ne s'y passe pas grand-chose, et quand les nuits sont longues et que les policiers ont dans leur voiture une journaliste, eh ben, ils lui parlent, et elle prend des notes, et que là, j'ai cette policière qui m'a regardée dans le rétroviseur et qui m'a dit qu'elle avait l'impression que les policiers, c'était les éboueurs de la société. Et ça, c'est fort quand même, parce que c'est un petit peu comme si Denis Zaher, à Pôle emploi, à Montluçon, qui me dit quel est le dernier rempart. Ça veut dire que ces gens-là qui aiment leur métier, que ce soit les policiers ou que ce soit les gens de Pôle emploi, eh bien, sont les premiers en première ligne devant les gens qui vont le plus mal. Et personne n'a envie de le faire, ce travail-là. Il n'est pas facile à faire. Alors j'ai aussi parlé beaucoup avec ce policier Ludovic qui a fait les Beaux-Arts avant de se retrouver dans la police, qui avoue qu'il a voté FN et que là aujourd'hui il ne sait plus pour qui voter.
Et qui dit on ne fait que de la représentation.
Exactement, on ne fait que de la représentation et il est contre cette politique du chiffre et il me dit je ne serais jamais rentré dans la police si j'avais su qu'on nous ferait faire du chiffre comme ça. Parce que lui il est dans l'humain et moi je me dis que si tous les flics étaient comme lui, eh ben, ça serait quand même plus sympa.
Alors certains du coup ont organisé eux-mêmes des maraudes, comme d'autres dans votre livre ont fondé une association. Il y a beaucoup de gens qui ont pris les choses en main. Est-ce qu'on peut dire, Anne Niva, que la société civile prend le relais de l'État, se substitue à lui ?
Alors, se substitue sans doute pas, mais se juxtapose à lui. C'est-à-dire que effectivement, les Français qui, comme nous le savons tous, aiment beaucoup se plaindre, et se plaindre notamment de leur politique, de leurs institutions, etc., et dire que rien ne marche, eh bien, ont quand même envie, par effectivement un tissu associatif absolument extraordinaire, sont fraternels. Il y a une solidarité qu'on ne soupçonne pas, parce que c'est vrai que dans les médias, on a tendance à ne pas mettre toujours le doigt sur les choses qui vont bien, mais plutôt sur l'inverse. Donc c'est vrai que j'ai voulu faire cette maraude à Évreux et que je me suis rendu compte qu'elle existait partout, dans toutes les villes de France, et qu'elle créait des liens. Et j'ai, en même temps à Évreux, j'ai parlé avec des Ébroïciens qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas que cette maraude existait. Donc moi, la journaliste de passage, j'arrivais à mettre finalement les gens en lien les uns avec les autres. Et là, quand j'y parviens, je trouve ça formidable.
Ce sentiment d'abandon que ressentent les citoyens, Anne Niva, parfois font un bien le reconnaître, il est un petit peu justifié.
Votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une panne, le TER Centre, numéro 860605, à destination de Châteaudun, départ initialement prévu à 8h11, est supprimé. Des informations vous seront communiquées dès que possible. Merci de votre compréhension.
Ah voilà. Mais Montluçon, qui est une de mes civiles, on peut plus y aller en train. Voilà. On achète un billet SNCF, mais on arrive à Vierzon. À Vierzon, là, c'est pas marqué sur le billet. Mais on descend et le reste est en bus.
Et vous écrivez, la SNCF participe à la mutation des campagnes françaises vers cette globalisation si décriée. Pourquoi vous écrivez ça ?
Mais parce que les gens souffrent de cette globalisation, parce qu'ils ont l'impression de ne plus exister, ils ont l'impression d'être devenus des numéros, ils ont l'impression d'être devenus des anonymes, et c'est pour ça que en arrivant dans leur ville et en m'intéressant à eux, eh bien je me suis retrouvée face à des humains qui avaient beaucoup de choses à dire. Mais le premier réflexe, ça a été extraordinairement étonnant pour moi, ça a été la perplexité de ces gens, du fait que je m'intéresse à eux.
Est-ce qu'il y a de la rancœur vis-à-vis de la centralisation parisienne ? Est-ce que c'est un point commun que vous avez rencontré dans ces villes moyennes, ces 6 villes moyennes, d'avoir un sentiment que tout se décide à Paris, que tout est centralisé à Paris ?
Oui, bien sûr, centralisé, bien sûr, mais c'est surtout que Paris est le centre de tout, y compris dans les médias, c'est-à-dire le centre des discussions, que les médias les plus importants, évidemment, sont à Paris, que le microcosme médiatique est à Paris, que tout le monde est parisien, et que donc, ceux qui sont montés à Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui font la pluie et le beau temps à Paris aujourd'hui, qui viennent de la province, ont un peu oublié qu'ils en venaient. Et du coup, le journaliste parisien n'est pas très bien accueilli hein, quand il arrive dans ces provinces. Sauf que, enfin, moi je ne suis pas étiquetée journaliste parisienne parce que je passe mon temps à partir de Paris. D'abord, au départ, je suis au Savoyard, je ne suis pas parisienne. Mais j'habite à Paris, bien sûr, et bien sûr que je fais partie du microcosme, je l'assume complètement. Mais moi, mon métier, c'est d'en sortir tout le temps. Mais je pense que quand on explique quel est son projet et que l'on a du respect pour son interlocuteur, eh bien, tout change. Tout change. Et là, l'interlocuteur parle. Il parle, il a des choses à dire. Et ce livre n'a aucune autre ambition que de donner la parole à ces Français-là.
Certaines villes que vous citez, que vous prenez dans ce livre, Anne Niva, sont dans des départements qui sont parfois traversés par aucun tracé ferroviaire rapide.
Je viens de le dire pour l'Allier.
Pour l'Allier, c'est aussi le cas de l'Aisne. Et alors, circonstances aggravantes, vous écrivez, ni l'An ni l'Aisne ne sont faciles à orthographier. Certains ne savent même pas prononcer ces deux mots.
Mais il y a encore des gens qui disent Laon au lieu de dire L'An. Je l'ai entendu dire dans des médias parisiens.
Oui, ceci dit, j'aurais pu la faire. Mais vous écrivez, c'est comme si l'Aisne n'était nulle part. Est-ce que vous avez choisi ces villes-là en fonction de leur degré de délaissement ?
Alors, si je l'ai écrit sur l'Aisne comme si elle n'était nulle part, c'est parce que des gens me l'ont dit. Je n'aurais pas osé dire une chose pareille, mais beaucoup me l'ont dit. Donc, je me suis dit, il faut que je l'écrive.
et le choix de ces civils
moyennes. Ce choix est tout à fait subjectif. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas Paris, Lyon, Marseille, ni leur banlieue. Je ne voulais pas non plus des villes qui ont été déjà l'objet d'une grande médiatisation. Par exemple, Lunel, où il y a eu ces réseaux djihadistes, aurait pu tout à fait m'intéresser. Mais comme ça a déjà été fait, je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs. Je voulais des villes vierges, entre guillemets, de toute couverture médiatique. Alors ça a été le cas de toutes, pendant que j'y étais, sauf une.
Ajaccio.
Où c'est quand même très étonnant parce que moi j'y suis allée pour la première fois en juin 2015, il ne s'y passait rien. Et puis finalement, il s'est passé quand même dans la nuit de Noël, donc du 24 au 25 décembre 2015, un énorme événement dans ce quartier-là, puisqu'il y a eu des feux, que les pompiers sont montés pour les éteindre, qu'ils ont été caillassés par les jeunes du quartier et que ensuite, le lendemain, il y a eu des Corses qui sont montés en solidarité avec les pompiers et que ça a fait tout un pataquès pendant 5-6 jours et que tous les médias de France et de sont arrivés sur Ajaccio. Donc du coup, j'y suis retournée après les événements. Et donc, c'est ma seule ville, mon seul chapitre, parce qu'attention, à Ajaccio, je traite d'un sujet très compliqué, qui est le sujet de l'identité. Et c'est le seul chapitre, la seule ville dans laquelle je suis revenue, puis après des événements, puisque de gros événements médiatiques s'y étaient passés.
Il est temps de nous révéler votre petite ville personnelle, Anniva, vos habitants intimes, enfin bref, vos secrets d'écriture, quoi. Et bien, ça tombe bien, c'est l'heure du procès verbal. Votre nom.
Oui, Niva.
Votre prénom,
Anne.
Vous écrivez assise, couchée ou debout?
Assise, à une table, en bois.
Sur ordinateur ou sur papier?
Ah non, mais quand je suis sur le terrain, c'est évidemment dans toutes les positions possibles et imaginables et sur un carnet de notes avec un stylo bic. Et sinon, quand j'écris mon livre, que je le rédige, c'est sur ordinateur.
Vous êtes chez vous? Vous êtes au café?
Chez moi et dans le silence.
Quand vous levez la tête de votre bureau, qu'est-ce que vous voyez?
Je vois les merveilleux châtaigniers des Cévennes, puisque j'écris pratiquement uniquement dans une maison que j'aime énormément, qui est mon refuge Cévenol.
Quand vous écrivez, vous êtes habillée en jogging mou, très naturel, ou au contraire, c'est assez cérémonial, vous êtes apprêtée?
Non, je suis en talon aiguille, comme quand je vais sur le plateau de Ruquier. Mais non, je plaisante! Bien sûr, je suis en jogging, évidemment, mou, etc., avec un vieux t-shirt et personne ne me voit.
Avez-vous un rituel avant ou pendant l'écriture?
C'est tout simplement qu'il faut que je sois en forme physique. C'est-à-dire, en fait, j'écris... Moi, je suis du matin, et donc j'écris après avoir fait du sport, et après avoir écrit, je retourne faire du sport.
Le téléphone sonne, est-ce que vous décrochez?
Non, le téléphone sonne pas. D'abord, mon téléphone, il est ni sur vibreur, ni sur rien du tout. Tout est éteint.
Votre pause, P-A-U-S-E, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous faites?
Je vais manger un poisson grillé que je me suis cuisiné, que m'a apporté ma poissonnière Cévenol, et à côté de ma piscine.
Qu'est-ce que vous faites quand ça ne vient pas?
Ça arrive, je m'énerve. Généralement, je ressors faire du sport. Je vais faire un tour, je monte un col, je marche.
Quel est le mot qui vous vient à l'esprit et qui suit le point final?
Ouf.
Merci Anniva, vous êtes libérée de ce procès verbal. Un petit détour par le groupe Dépêche Mode qui vient de signer un nouvel album et qui chante « Where the Revolution ». Mais ma parole, mais ils ont lu votre livre! Where is the revolution?
You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed true. Making your decisions, you or your religion, your government, your countries, your patriotic junkies. Where's the revolution?
Thank you.
Amuse-bouche sur France Inter avec Anne Niva pour son livre « Dans quelle France on vit ?» Une plongée dans les profondeurs de la France à travers 6 villes moyennes dépiautées par vos soins. Et ben, j'en connais moi des gens capables de sonder une ville grâce aux clients qui passent dans leur boutique. C'est un peu « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». J'ai nommé les libraires. Et alors, Anne Niva, je ne sais pas pourquoi, il y a un mystère. C'est très bizarre. Les libraires nous téléphonent. Je ne sais pas pourquoi.
Tiens,
à cette heure-ci, qu'est-ce que je disais ? C'est une sonnerie de téléphone. Non, mais ne faites pas cette tête.
Non, mais c'est les moussons des Cévennes.
C'est ce que j'allais dire. Allô ?
Oui, bonsoir Clara. J'appelle pour l'apéro.
Oh, mais j'entends à votre voix que vous ne venez pas d'une ville moyenne, mais d'une grande ville bordée par la mer, je dirais, au hasard, Marseille.
Une très grande ville bordée par la mer, Marseille.
Ne seriez-vous pas Jérémy Banel de la librairie du Mucem à Marseille ?
Lui-même, exactement.
Très beau.
Et alors, bonsoir, Jérémy.
Ce musée ouvert sur le large, un peu comme nous finalement à la Muse-Bouche, hein, ou esprit ouvert sur le large. Jérémy, quelle est la situation la plus farfelue que vous avez vécue dans votre boutique ?
Alors, c'était pas dans celle-là, c'était un petit peu avant, à Aix-en-Provence, à peine plus loin. Et j'étais tout juste jeune libraire et j'ai eu une demande qui m'a beaucoup ému, beaucoup touché, à laquelle j'étais bien incapable de répondre. C'était une jeune femme qui voulait offrir à un enfant d'une amie qui venait de naître 18 livres qu'elle allait lui offrir année après année jusqu'à sa majorité.
C'est trop extraordinaire.
Et c'était... Alors j'ai été désemparé forcément, je pense que je le serai encore parce que je suis toujours pas très fort pour les livres pour enfants. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une super idée, d'abord très originale, et puis pour un libraire c'est vraiment super intéressant d'avoir quelque chose comme ça.
C'est accompagner la croissance, c'est beau. Hein,
mais vous les avez trouvés les 18 livres ?
J'ai lâchement délégué ça à une de mes collègues à ce moment-là, qui j'imagine s'en est très bien tirée.
C'est très beau. Et quel est le livre, Jérémy, que vous conseilleriez à notre invitée Anne Niva ?
Alors, le livre que je lui conseillerais, c'est une bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Étienne Davodeau, et la bande dessinée s'appelle Les Mauvaises Gens.
Les Mauvaises Gens. Vous l'avez lu celui-là, Niva, ou pas ?
Pas du tout, ça m'intéresse beaucoup.
C'est magnifique.
Et alors, il s'agit de l'auteur revient sur le parcours militant de ses parents, dans les Mauges, qui est un petit coin du côté de Cholet. Et il revient donc sur leur parcours des années 45 à peu près jusqu'à nos jours. Et moi, du coup, j'y ai beaucoup pensé en le lisant. D'abord parce que Étienne Davodeau, c'est un peu un spécialiste, un des précurseurs en France du reportage en bande dessinée, des reportages longs, où il prend vraiment le temps de rencontrer les gens, d'être dans le temps de la conversation plus que dans l'urgence. Du coup, je pense que c'est une démarche qui peut être assez assez similaire.
Ah oui, tout à fait.
Voilà. Et il travaille beaucoup aussi sur la question du portrait. Il met beaucoup en scène les gens qu'il... Il met en scène les interviews en bande dessinée. Donc il y a vraiment un attachement à prendre le temps de décrire son interlocuteur, de le laisser discuter. Il a... À un moment, il en parle avec ses parents de son projet. et il leur dit cette phrase, raconter la vôtre de vie, c'est aussi raconter la leur, de tous leurs camarades. Et je trouve que c'est quelque chose qui s'applique également à votre travail, puisque à travers certains portraits, il est question de brosser un tableau qui dépasse le cas de chaque individu. Et par ailleurs, il a un regard qui est très empathique envers son sujet, très positif, avec très peu de jugement. Il
très
est
humain,
vraiment dans
finalement.
La valorisation. Très humain, voilà, c'est ça. Dans la valorisation des réussites et puis d'une vraie, une vraie humanité qu'on retrouve effectivement. Et j'ai trouvé vraiment des vrais liens et des vrais ponts, si je puis dire. Donc,
vous nous rappelez, Jérémy, les références de la bande dessinée d'Étienne Davodeau ?
Alors, il s'agit de la bande dessinée Les Mauvaises Gens et elle est publiée aux éditions Delcourt.
Merci Jérémy Banel de la librairie du Mucem à Marseille et puis merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Meuse-Bouche. Jérémy, on vous attend pour partager un bon vin des terroirs. Venez.
Avec plaisir.
Et voilà. Merci Jérémy et on embrasse le CSA qu'il mérite bien avec toutes ses références alcoolisées. Anne Niva, il est l'heure des inavouables. Oui, parce que on a beau être la reine des reportages, humaine, donc faillible. Sûr. Alors, y a-t-il une chanson, un film, une émission cataloguée un peu ringard que vous aimez en toute discrétion?
Oui, alors là, ça va devenir moins discret du coup. Alors, c'est une chanson. Une chanson qui s'appelle « Mon mec à moi » de Patricia Cass.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand t'es pris dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle de voiture.
J'adore ça.
Chanson sortie en 1988 dans l'album Mademoiselle Chante, écrite par Didier Barbelivien. Pourquoi vous l'aimez celle-là ?
Mais c'est cette voix, cette jeune femme toute frêle, etc., qui a cette voix extraordinaire comme une grande chanteuse de jazz. Et puis en plus, moi j'ai vécu 10 ans à Moscou et à cette époque-là, donc jusqu'au milieu des années 90, des années 2000, elle était encore très 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 connue en Russie, Patricia Cass. Donc j'ai pu prolonger
cette
passion inavouable.
Et parmi vos inavouables, est-ce qu'il y a un film ou une émission de télévision ?
Ah oui, une émission de télévision.
J'ai l'impression qu'on tape dans le lourd, là.
Alors là, c'est du très très lourd.
Du lourdement inavouable.
Je ne sais pas si je vais oser le dire.
On va voir où vous en êtes.
Alors, c'est Tourner Manège.
Oh ! Alors oui, c'est du lourd, je vous confirme.
Alors, je vous présente Patrick.
Patrick de Paris.
De Paris, n'est-ce pas ?
Bonjour papa,
Patrick
bonjour maman.
Patrick de Paris. Yves de Lyon.
Yves de Lyon. Bonjour à moi, ma grand-mère. Je t'aime, grand-mère.
Oh, elle a quel âge, votre grand-maman ?
Elle a 73 ans.
Thierry.
Moi, je vais adosser. Ah, bonjour à papa, bonjour à maman.
Bon, ben voilà, les messages personnels sont passés. Il y a une jeune fille à côté qui, je l'espère, va être plus succincte. Il y a Marie-Noël.
Bonsoir, bonjour.
Et Nathalie.
Bonjour.
Voilà.
Voilà. Jeu télévisé.
Non mais quand ils se découvraient à la fin, là, c'était extraordinaire voir la mine de l'un et de l'autre.
Et alors ça a été diffusé chaque midi sur la chaîne numéro 1 de septembre 85 à juillet 93.
Chaîne numéro 1.
Oui, TF1. Et c'était présenté, vous vous rappelez, par Evelyne Leclerc, par Simone Garnier, et il y a eu Fabien Degal. Vous vous rappelez
Fabien Degal, bien sûr.
Et elle est revenue un peu cette émission en 2009 et 2010. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette émission, Anne Niva ?
Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire le mystère, le fait qu'ils ne se connaissent pas, ces questions, l'illusion qu'on peut avoir, même en la regardant, que finalement ça va donner un couple. Je trouve ça formidable. J'aurais aimé trouver mon mari sur Tournée Manège.
On va lui passer un appel, on aurait mieux vous rencontrer autrement. En tout cas, c'est sur ces paroles engageantes que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Venez que vous soyez d'une petite ville, de la campagne, d'une gigapole, vous serez toujours les bienvenus. Dans Quelle France on vit de Anne Niva est paru chez Fayard. La semaine prochaine, nous recevrons Laurent Chalumeau pour VIP, paru chez Grasset. L'amuse-bouche est une petite bourgade gérée par Violaine Ballet, Chouchane Djergaillan, Thierry Dupin et Loïc Frapsos. Bonne semaine, n'oubliez pas de vous aimer, vous les Français, car nous sommes debout dans l'adversité quand même. On vous embrasse et à samedi.